entre Yumbushima et le Cantal oriental. J'ai réfuté totalement cette
histoire. Moi, c'est l'île de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à toutes et à tous et merci d'être des nôtres dans ce cadre d'échange et partage citoyen, parole aux auditeurs. Une requête en inconstitutionnalité de certaines dispositions de la loi portant organisation des élections a été introduite par un Congolais à la Cour suprême de justice. Maître Lumumbaya, avocat près la Cour d'appel de Kinshasa Matete, dénonce la violation flagrante de plusieurs dispositions de la Constitution, en l'occurrence ses articles 5, 12, 13, 14 et autres. Entre-temps, de nombreux observateurs estiment que, compte tenu des enjeux de l'heure sur le processus électoral, la Cour suprême de justice fera face à plusieurs autres contentieux à l'avenir. D'où la nécessité d'accélérer l'installation de la Cour constitutionnelle pour un contrôle efficient sur tout acte ayant force de loi. Comment réagissez-vous? Vous pouvez nous rejoindre à l'adresse pa@radiocapi.net ou bien nous appeler au 081-890-6315 pour votre intervention en direct. Toute l'équipe est là pour vous tenir compagnie. Paul Badianyama est à la technique. Julie César Bongonda et Piro Elameji réalisent ce programme coordonné et présenté par J.R. Lungembo sous la supervision de Léonard Moulamba. À vous tous, une excellente condition d'écoute.
Parole aux auditeurs pour participer 081-890-6315 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous avons dans ce studio le professeur Tshibangu Kalala, qui est un analyste politique que nous recevons souvent dans cette émission, du fait qu'il est professeur, analyste politique à tendance constitutionnaliste. Voilà, professeur, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, Gérard.
Voilà, vous avez suivi les sommaires de cette émission. Alors, de nombreux observateurs estiment que, compte tenu des enjeux de l'heure sur le processus électoral, la Cour suprême de justice fera face à plusieurs autres contentieux à l'avenir. Est-ce que cette crainte est serait-elle justifiée?
Oui, d'abord, Gérard, nous vous remercier pour m'avoir invité, me donner l'occasion d'animer cette émission avec vous, avec les auditeurs de Radio Occupy que je salue. Maintenant, pour répondre à votre question, la crainte est justifiée. Vous savez, nous sommes, si je peux m'exprimer, dans l'année électorale. Élection implique aussi un contentieux électoral. Les gens qui vont contester, etc. L'année prochaine, on aura des élections législatives et présidentielles. Ça peut ouvrir la voie à un contentieux électoral pour ces élections-là. Et là, la Cour suprême de justice, qui fait actuellement fonction de Cour constitutionnelle, c'est en plein dans les contentieux. Je crois que la dernière fois, on était au-delà de 500 ou 600 recours en la matière. Donc la crainte est justifiée parce qu'on ne peut pas empêcher un Congolais qui estime qu'on lui a volé sa victoire aux élections de saisir la Cour suprême de justice ou la Cour constitutionnelle, notamment en particulier en ce qui concerne les élections législatives nationales. Donc la crainte est justifiée.
Alors, est-ce que la Cour constitutionnelle pourrait, au fait, à compétence pour juger, pour au fait traiter des cas, des contentieux à la matière, disons, où tout acte est à force de loi, en ce moment, dans les contextes actuels, où carrément il faut absolument installer la Cour constitutionnelle?
Écoutez, là, permettez-moi de faire un peu de pédagogie, pour les auditeurs de Radio Capi. Dans notre système judiciaire aujourd'hui, nous avons créé une cour spécialisée. C'est une cour spécialisée. C'est la Cour constitutionnelle. Et c'est une bonne décision qui a été prise par notre peuple. Et cela est ainsi noir sur blanc dans notre constitution. Et cette Cour constitutionnelle a des compétences particulières qui lui sont conférées par la Constitution. Notamment, je ne vais pas trop reprendre ici en détail, il y a le contrôle de la constitutionnalité des lois. Donc, chaque fois qu'une loi est votée par le Parlement, qu'une ordonnance-loi, et même des actes réglementaires, des ordonnances, des arrêtés ministériels, ou des édits provinciaux, etc., eh bien, la Cour constitutionnelle a pour mission de vérifier si ces lois, si ces actes réglementaires sont conformes, oui ou non, à la Constitution. En fait, la Cour constitutionnelle, c'est le gardien du temple. C'est le gardien de l'ordre constitutionnel, du respect de la Constitution, qui est la loi fondamentale de notre pays.
Et ça a été une bonne décision de créer cette cour spécialisée qui ne s'occupera que de cela.
Et de déjà désigner les membres. Les membres sont alors reconnus.
Au moment où je vous parle, mm-hmm. maintenant cette émission, le président de la République a déjà pris une ordonnance nommant les 9 membres qui composent cette cour spécialisée. Selon la Constitution, il faut 9 membres, mm-hmm. 3 nommés à titre discrétionnaire par le président de la République lui-même, c'est fait. 3 désignés par le Parlement, le Sénat et l'Assemblée nationale ensemble, désignés 3, c'est fait. Et puis il y a le Conseil supérieur de la magistrature qui désigne aussi 3, c'est fait. Ces 9 personnes sont là. Maintenant, il reste, c'est ça votre question,
mm-hmm.
il faut maintenant que cette cour soit opérationnelle. En attendant, il y a la...
Je ne sais pas si vous êtes dans les secrets des dieux, pourquoi ça traîne.
Moi, je vais y arriver. Mais en attendant, il n'y a pas de vide, Jérôme, parce que la Cour suprême de justice fait fonction de la Cour constitutionnelle. Donc, il n'y a pas de vide, nous avons une Cour constitutionnelle qui fonctionne. C'est la Cour suprême de justice qui fait fonction.
Mais entre temps, ces membres font quoi? Ces membres désignés, ces membres qui sont nommés font quoi, maintenant?
Ils sont en train de tourner les pouces. Si vous voulez que ça réponde.
Voilà,
mais pour que ça se mette au travail, il y a une étape, parce qu'il y a une procédure. Ce qui reste maintenant, et parce que ça c'est votre question,
mm-hmm.
c'est rendre cette cour opérationnelle. C'est-à-dire que les 9, comme on les appelle ailleurs en France, s'appellent les sages, les 9 sages de la République, pour qu'ils entrent en fonction, il y a une étape, ils doivent prêter serment. Et cela est prévu à l'article 10 de la loi relative à la Cour constitutionnelle. L'article 10 prévoit que ces personnes, avant d'entrer en fonction, ils doivent prêter serment devant la nation. Je vous dis que ce sont les sages de la nation. Donc, ils doivent prêter serment. Mais ils prêtent serment devant qui? Ils prêtent serment devant le président de la République, devant l'Assemblée nationale, devant le Sénat et devant le Conseil supérieur de la magistrature. Et donc, ces institutions se mettent ensemble dans une salle, peut-être dans la salle de congrès au Palais du Peuple, ils seront là, le président de la République, les 2 chambres parlementaires, le Conseil, et ces 9 personnes prêtent serment de manière solennelle, et le président de la République leur donne acte sur la prestation des serments. À partir de ce moment-là, ils entrent en fonction. Et après cette étape, eh bien, ils vont se réunir maintenant entre eux pour désigner leur président, hein, qui a un mandat de 3 ans. Parmi les 9, ils vont choisir quelqu'un entre eux, eux-mêmes, qui va
présider.
Oui, et puis après, le président va pouvoir investir ce président qui a un mandat de 3 ans, mais qu'on peut aussi renouveler. Et donc, nous attendons cette étape-là de prestation des serments. Sur le plan matériel, vous avez suivi, notre peuple a suivi, vous-même, Gérard Longuembo, le président de la République a inauguré le mois passé,
le
20 février,
le
nouveau palais de justice. Il y a déjà des bureaux, des locaux sont là, donc les tables, les chaises, etc., les salles d'audience, c'est prévu.
Mais les budgets, c'est fonctionnement pour cette cour constitutionnelle, puisque là, cette question n'a pas encore été discutée.
Oui, ça, c'est l'affaire du gouvernement.
Mm-hmm.
Bon, et, évidemment, il est prévu dans la loi que c'est la Cour elle-même qui va élaborer son budget. Évidemment, le budget va émarger au budget général de l'État. Mais ça, ce sont des questions d'ordre technique qui seront réglées de manière régulière, etc., sans problème. Il faut un budget bien entendu.
081-800-9-3315 pour votre intervention en direct. Et vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook. Nous débattons autour d'une requête en inconstitutionnalité de certaines dispositions de la loi portant organisation des élections qui a été introduite par un Congolais à la Cour suprême. Et là, nous relançons les débats sur l'inquiétude de nombreux observateurs qui estiment que, compte tenu des enjeux de l'heure sur les processus électoraux, la Cour suprême de justice fera face à plusieurs autres contentieux à l'avenir. Alors, d'où la nécessité d'accélérer l'installation de la Cour constitutionnelle. Comment réagissez-vous?
Lorsque le soleil se couche, toutes les infos se retrouvent sur la radio de la paix. Journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Synthèse de l'actualité africaine et internationale. Économie, paroles d'enfants, rencontres avec les Congolais de l'étranger, inforoutes et les infos sport toutes les demi-heures. Lorsque le soleil se couche, 17 à 19h, bienvenue dans Tapissoir.
Voilà, merci de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs. Maître Sonville, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour Monsieur JR, bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi, bonjour aussi à notre invité.
Quelle est votre contribution à cette émission?
De toutes les façons, il a raison. Celui-là qui s'est plaint au niveau de la justice, soi-disant qu'il y a une certaine inconstitutionnalité, du fait que d'abord, les dispositions qu'il a reprises dans sa plainte, là, en ce qui concerne l'article 5 de la Constitution, d'abord, il y a une violation du fait que la CENI exclut d'abord les jeunes qui ont déjà atteint 18 ans, en ce qui concerne les élections de 2014 et de 2015. Il leur demande d'attendre à ce qu'ils se présentent aux élections de 2016. Or, selon la Constitution, l'article 5, la souveraineté de nationale appartient au peuple pour pouvoir émaner du peuple qui l'exerce directement par voie de référendum ou d'élection et indirectement par ses représentants. Et à l'alinéa 4, en disant prévu des dispositions des articles 72, 106 et 102 de la présente Constitution, soit électeur et éligible dans les conditions déterminées par la loi, tous les Congolais de deux sexes âgés de 18 ans révolus et jouissant de leurs droits civils et civils. J'estime que d'abord, ça, c'est une violation de la Constitution. Exclure de la discrimination, et dans d'autres dispositions aussi, on interdit la discrimination. J'estime que dans ce que la CENI a dit, il y a une discrimination. La CENI ne peut pas interdire, exclure ceux-là qui ont atteint déjà 18 ans. Tout ça, c'est-à-dire que la Cour constitutionnelle aura affaire à beaucoup de dossiers, à beaucoup de conflits, à beaucoup de contentieux. Et d'ailleurs, la question que je me pose, le président de la République a déjà nommé les membres composants constituants cette la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce qu'on attend pour sa prestation? Ça demande quoi? Or, il y a même une inauguration du palais de justice, là où les locaux de la Cour constitutionnelle sont réservés. Du fait que le président a déjà nommé les membres constituants à la Cour constitutionnelle, la Cour suprême de justice doit cesser, tout à fait cessant, doit cesser d'exercer les fonctions dévolues à la Cour constitutionnelle. Parce que nous savons là où nous allons, il y aura des problèmes, il y aura des contentieux, il y aura des contestations. Mais qu'est-ce qui sera au milieu du village? C'est la Cour constitutionnelle, parce que dans la Cour constitutionnelle, nous reconnaissons qu'il y a des membres du Conseil supérieur de la justice, il y a des membres du Parlement, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale, et des membres que lui-même, le chef de l'État, doit nommer. Et par cela, il doit se passer un vote pour qu'on ait un président. Et puis, à ce niveau-là, peut-être le contentieux sera résolu d'une manière objective. Mmh. Hormis cela, il y a aussi là où on enfreint la liberté d'expression, là où on arrête les gens arbitrairement, il y aura beaucoup de contentieux. D'ici là, le 15 avril, on demande aux gens de déposer leur candidature à ce qui concerne les élections municipales et consorts. Est-ce que toutes les conditions sont réunies? Que dit la Constitution? C'est-à-dire que cette Cour constitutionnelle est seulement impérieuse. Le fait qu'elle doit résoudre, elle doit ramener tout le monde à l'ordre, et tout le monde au respect de cette constitution. Et nous tous, nous avons voté au référendum en 2005. Et il y a aussi le problème même des provinces, des nouvelles provinces, puisque les provinces sont là, la loi est déjà promulguée, il y a l'installation de ces provinces est effective. Il y a de part et d'autre là où certaines autorités remettent en cause cette ordonnance, or c'est constitutionnel. Mm-hmm. Mais là où le bas baisse, pourquoi cette léthargie, pourquoi cette attente, puisque cette loi devait être promulguée bien avant l'installation de ces promesses, devait se faire 36 mois après, en 2000 après les élections. Mm-hmm. Parce qu'il y a certaines provinces là où certains dirigeants disent ne pas reconnaître cela. Ils demandent à ce que le président puisse remettre en cause cette ordonnance, ça ne se fait pas, c'est constitutionnel. Oui, il y a encore des histoires qui sont constitutionnelles, là où qui ne sont pas respectées, et la Cour constitutionnelle a affaire à tout cela, à résoudre ces contentieux-là. Mmh. Parce que la Constitution, ce sont même les textes légaux qui régissent sur le pays. Il ne fait pas pour fonctionner sans loi.
Merci beaucoup, Maître Sonville. Vous soutenez, en tout cas, les observateurs qui estiment que, compte tenu de tous les enjeux de l'heure sur les processus électoraux, la Cour suprême suprême de justice fera face à plusieurs autres contentieux, mis à part celui de Maître Lumumbaya qui vient d'ailleurs de déposer une requête en inconstitutionnalité de certaines dispositions que vous avez évoquées, l'article 5, 12, 13, 14 de la Constitution. Alors, vous êtes posé la question, pourquoi une ordonnance signée qui entre déjà en vigueur et les membres sont connus et la Cour n'est pas opérationnelle, et ça fait déjà débat, parce que l'ordonnance, à sa fin, il était clairement dit que ça entre en vigueur à la date de sa signature, et les contentieux, comme vous l'avez dit, seront réglés d'une manière objective, en tout cas si jamais cette Cour est très opérationnelle, donc pour éviter des problèmes qu'on a connus par le passé. Voilà, donc pour vous, la Cour constitutionnelle, l'installation de la Cour serait impérieuse pour résoudre tous ces problèmes-là. Merci beaucoup, Maître Fauville. Omar, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, Gilles Ngembo, bonjour à tous les auditeurs.
Vous avez la parole, Maître Omar. Est-ce que vous partagez le point de vue de certains observateurs qui insistent qu'il y a nécessité d'accélérer l'installation de la Cour constitutionnelle pour un contrôle efficient? Il y a Maître Fauville qui a parlé de traitement objectif des dossiers.
Merci beaucoup, Gilles, du verbe de parole ma budget. Avant de répondre à votre noble question, je voudrais d'abord signifier à tous que notre pays, dès 2006, a innové en ce qu'aujourd'hui, tout Congolais peut saisir la Cour constitutionnelle ou la Cour suprême des offices pour une inconstitutionnalité d'une loi et d'un acte réglementaire. C'est l'article 162, alinéa 2 de la Constitution. Donc, de ce point de vue, je pense que la démarche de l'initié est normale et elle est juridiquement fondée. Mais là où le bas blesse et là où j'ai des inquiétudes, c'est par rapport au fond du dossier. J'ai devant moi la loi modifiant et complétant la loi de 2006 ainsi que celle de 2011 sur les opérations électorales. Lorsque je lis l'article 5, on parle de conditions pour être électeur. Lorsque je lis l'article 12, on parle de la présentation de la candidature. Lorsque je lis l'article 13, on parle plutôt de liste des candidatures et de la parité homme-femme. Alors, je me suis posé une unique question. Quel est le motif pour lequel l'avocat a saisi la Cour pour inconstitutionnalité? Il ne s'agit pas de saisir la Cour, encore faut-il relever les griefs qui font qu'il y a une inconstitutionnalité. Je n'ai pas lu sa requête, mais j'étais là devant la loi et je n'ai trouvé aucun écueil. Maintenant, par rapport à la nécessité de la Cour constitutionnelle, moi je pense hier, dans un état, qui se fait de droit, le juge constitutionnel se trouve être le chirurgien de toute démocratie. C'est le juge de la sincérité des élections, c'est le juge pénal du chef de l'État, c'est le juge de tous les contentieux constitutionnels, c'est-à-dire de tous les actes qui violent la Constitution. Donc il s'avère donc être important car nul ne peut ignorer que la Constitution est la première loi fondamentale dans un État. Et un État qui se veut démocratique se doit de respecter la Constitution. Et le seul moyen d'assurer cette démocratie, c'est de mettre en place des garde-fous d'abord pour prévenir toute violation et pour sanctionner toute violation. Je pense qu'il est important, en cet instant nous parlons, où notre pays danse au rythme de la démocratie, de mettre rapidement en place cet organe qui est salvateur pour notre pays et des deux qui pourra en effet apurer beaucoup des choses que nous avons toujours dans ce pays. Donc, l'idée de l'avocat est bonne, mais il serait mieux qu'il puisse nous apaiser en nous disant quels sont les griefs dont vous les écrivez.
Peut-être pour vous aider, Omar.
Il serait aussi important. Oui, allô.
Mais pour vous aider, parce que nous avons cette requête avec nous, voilà, il y a de la violation des articles 5, 12, 13 et 50 de la Constitution en ce qui concerne le droit de vote des Congolais vivant à l'étranger. L'article 5 de la loi électorale modifiée, selon la requête, donc, les votes consacrent le vote des Congolais vivant à l'étranger en des termes ci-après. Nul n'est électeur s'il ne remplit les conditions suivantes. Être de nationalité congolaise, être âgé de 18 ans révolu, n'est pas à se trouver dans l'un des cas d'exclusion prévus à l'article 7. Alors, l'avocat appuie son argumentaire en disant ceci, toutefois, les Congolais résidant à l'étranger, donc pardon, à la lecture combinée, c'est qu'il a dit, à la lecture combinée des dispositions de l'article 5, alinéa 1.3 et l'article 7.4, face aux prévisions du calendrier électoral qui ne prévoit la mise à jour du fichier électoral qu'après les élections locales, il se révèle que le Congolais vivant à l'étranger ne pourrait valablement prendre part qu'à l'élection présidentielle. Pourtant, l'élection présidentielle aura lieu à la même date que les élections législatives nationales et bien avant ces deux scrutins. Voilà, vous vous êtes quand même fait une idée sur cette requête en ce qui concerne d'ailleurs l'article 5.
Oui, oui, je vois. Donc, j'ai d'ailleurs devant moi la loi. Donc, vous avez parlé de les personnes non inscrites sur liste électorale qui ne peuvent pas participer, et ainsi que la combinaison avec l'article 5. La démarche est bonne, mais moi, je pense qu'il faut faire la part des choses entre les conditions des votes et les modalités pour participer au vote. Il n'y a pas que le mineur devenu majeur aujourd'hui qui a été exclu. Il y a aussi des majeurs qui n'ont pas été inscrits dans les listes électorales. Alors, ne pas refaire les listes électorales soulève un autre débat sur l'organisation de la CENI par rapport à ses moyens, par rapport à sa mandat, je ne sais pas si on peut le dire, mais je ne trouve en rien la violabilité de la Constitution, puisqu'il faudrait faire la part des choses entre les conditions pour vivre dans un pays et les modalités pour participer dans une élection. Il y a même de majeurs qui, de bonne foi, ont refusé d'avoir la carte d'électeur et qui n'ont pas droit au vote, mais cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas les droits ou qu'ils ne remplissent pas les conditions pour être votés. Donc il y a eu ça, une nuance entre les conditions.
Merci beaucoup, Omar.
Ainsi que les modalités de participation.
Voilà, merci beaucoup, Omar. Donc vous soutenez la mise en œuvre donc imminente de la Cour constitutionnelle, comme les membres sont déjà connus. Faut donner l'occasion à cette Cour d'être déjà opérationnelle, comme l'a dit Maître Sonville, et vous l'avez également complété, pour que finalement on puisse traiter d'une manière objective certains dossiers. Maître Papi, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, bonjour aussi à notre invité.
Vous avez la parole, Maître Papi.
Merci, monsieur. Je ne veux pas répondre à tout ce que le confrère Omar a déjà dit.
Oui, est-ce que vous êtes d'avis qu'il faudrait qu'on accélère l'installation de la Cour constitutionnelle?
Bien sûr que oui, mais tout en soulignant que, comme le professeur venait de le dire, que au Congo, aujourd'hui, nous n'avons pas un vide juridique par rapport à cela. Parce que la Cour suprême actuellement joue aussi l'office de la Cour suprême.
Oui, parce qu'il n'y a pas un vide juridique. Voilà, la plus grande question, donc, le fait de désigner déjà les membres, c'est comme pour dire, on annonçait déjà cette accélération des choses. Et aujourd'hui, la question a été posée à notre invité, et ses membres tournent les pouces.
C'est ça, M. J.R. Les souhaits de tout le monde est celui-là. Il faut que la Cour constitutionnelle soit déjà opérationnelle parce que nous ne voyons pas les raisons qu'ils vont évoquer pour faire tarder la mise en place de cette Cour-là. Mais moi, je vais pousser le raisonnement plus loin par rapport à la constitutionnalité des lois. M. J.R., vous voyez que récemment, les chefs de l'État venaient de publier la loi sur le découpage territorial. Donc, nous avons 24 provinces, 25 provinces plus la ville de Kinshasa. Et cela étant, donc nous devons avoir nécessairement l'installation des 24 ou des 25 cours d'appel pour connaître surtout les contentieux pour les élections provinciales. On ne peut pas se limiter seulement au niveau national parce qu'il y a beaucoup de contentieux aussi qui vont s'érigir au niveau provincial. Donc c'est mieux de mettre tout cela en place pour ne pas connaître beaucoup de problèmes au moment venu. Donc c'est mieux que le gouvernement puisse prendre les choses au sérieux par rapport à tout cela, parce que les Congolais, même Maître Omar, quand il parle que tout Congolais a les droits de saisir la Cour constitutionnelle pour les constitutionnalités des lois, mais il faut savoir que tous les Congolais n'ont pas les notions du droit. Alors la même constitution donne au gouvernement l'obligation de diviser ou de légaliser cette constitution. Vous vous rendez compte qu'au Congo ici, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent même pas les articles, soit les dispositions fondamentales de la constitution, soit les dispositions qui sont vraiment plus appliquées dans la pratique. C'est mieux que le gouvernement puisse prendre cela au sérieux pour que les Congolais, eux aussi, puissent connaître certaines dispositions de notre constitution, surtout celles qui les concernent directement.
Merci beaucoup, Maître Papi, d'avoir appelé. Et comme vos prédécesseurs, vous soutenez vraiment l'installation imminente de la Cour constitutionnelle pour un contrôle efficient sur tout acte ayant force de loi. Jérôme, vous êtes à Bounia, bonjour.
Ah, bonjour, JL.
Vous avez
bonjour aussi au professeur Kibam, que ça fait très longtemps, je ne le suis pas. Bon, en fait, à ce qui concerne le sujet des jours, moi je pense que c'est vraiment, ça fait partie de la priorité de la République pour l'opérationnalisation de la Cour constitutionnelle. Même à l'entrée de GIE, moi je me disais, Donc aujourd'hui, se pose la question de savoir si quelle base constitutionnelle nous fonctionnons dans cette République actuellement. Comme les autres ont déjà dit, inutile d'y revenir, vous savez, nous avons la Cour suprême et nous avons la Cour constitutionnelle. À l'état actuel même, avant même pour moi de parler actuellement des histoires liées à la décentralisation, tout ça, il était question épérée avant qu'on puisse rendre opérationnelle la Cour constitutionnelle. Ça va permettre autant de contentieux aujourd'hui, autant de problèmes liés à la Constitution qu'on parle aujourd'hui, que cette Cour spécifique qui pouvait amener des solutions, parce qu'il y a beaucoup d'actes qui se posent au niveau. C'est pas constitutionnel, c'est moins constitutionnel, et ça permettrait maintenant aux sages, qui sont en fait les animateurs de la Cour constitutionnelle, de franchir à beaucoup de difficultés que nous connaissons à ce jour dans cette République. Vous le savez très bien. Aujourd'hui, par exemple, on parle de vote au niveau local et de vote. À l'époque, n'ont pas été organisés jusqu'à ce jour. Et nous avons aussi l'Assemblée provinciale, par exemple, qui fonctionne actuellement, qui n'a plus été renouvelée. Mais nous aussi, le Sénat qui fonctionne aussi, qui n'est pas renouvelé. Autant de problèmes liés maintenant à la violation des constitutions à l'état actuel. Je pense que l'accélération de la fonctionnalité de cette Cour pourrait permettre qu'on arrive à autant opportun à résoudre certains problèmes en attendant que nous allons aux élections, parce que d'ici là, si cette Cour ne fonctionnait pas, il y a seulement que la Cour suprême qui prend toute cette fonction-là, et nous savons vraiment qu'il est de telle atteinte des contentieux prenant à partir des élections locales jusqu'à présidentielle, il y en aura autant de telles atteintes, il faudrait prendre plus d'une année pour résoudre tout ça et on tombera dans un chaos très inutile. La meilleure façon pour moi, c'est d'accélérer la fonctionnalité de cette Cour constitutionnelle.
Merci beaucoup. 081-890-6315 pour votre intervention en direct. Vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook.
Votre radio vous propose chaque après-midi, du lundi au vendredi, 3 heures de découverte. De 13h à 16h, partie à la découverte du recette, des femmes et des jeunes qui se distinguent. Suivez nos reportages, vie quotidienne, paroles d'enfants, regards d'avenir et point de vue des jeunes. Laissez-vous guider par des balades en zigzag, un veste de culture et beaucoup de musique. Nous répondons également à vos questions. 13h, 16h, découverte, le sommeil de l'après-midi sur Radio Okapi.
Voilà, nous revenons à vous, professeur Chibangu Kalala. Vous avez suivi cette série Les Auditeurs. Et c'est vrai, bon nombre d'auditeurs sont d'accord que on puisse installer la Cour constitutionnelle dans un bref délai pour permettre à ce qu'il y ait un contrôle efficient sur tout acte ayant force de loi, parce que c'est vrai, à l'avenir, cette Cour suprême de justice, qui fait d'ailleurs office de la Cour constitutionnelle, fera face à plusieurs contentieux. On l'a évoqué, vous avait dit 500 dossiers pour les élections passées. Aujourd'hui, avec d'autres scrutins qui s'ajoutent, qui viennent se greffer, notamment les locales, les provinciales et aussi les élections urbaines. Donc, ça pourrait encore rendre encore plus volumineux les dossiers des contentieux au niveau de la justice. Alors donc, vous partagez cet avis que faille normalement accélérer l'installation de cette Cour, qui dirait que d'ailleurs, les membres sont déjà connus, sont sortis d'une ordonnance présidentielle, et dans l'ordonnance, il était clairement dit que l'ordonnance entre en vigueur à la date de sa signature. Voilà, l'auditeur qui l'a évoqué est cela. Alors, qu'est-ce que vous répondez aux uns aux autres?
Oui, j'aime bien voir. Ça veut dire que les auditeurs ont raison, ils ont besoin de leur cour constitutionnelle. Ça fait des soins. Tous d'ailleurs, mais on a déjà réglé un grand nombre de problèmes, comme je l'ai dit. Quand on dit l'ordonnance entre en vigueur à la date de sa signature, ça ne signifie pas que la Cour commence à fonctionner ce jour-là. Voilà. Non, voilà. C'est autre chose. Et donc, pour que la Cour commence à fonctionner, on a nommé les membres. Je vous ai dit qu'il faut d'abord que ces 9 sages soient présentés à la nation. C'est une présentation. La nation doit les connaître, les 9. Et donc, au cours de cette présentation, ils vont prêter serment
devant le président de la République, qui sera présent le jour de la présentation. Comme j'ai dit, il y a le président de la République, il y a l'Assemblée nationale, il y a le Sénat, il y a le Conseil supérieur de la magistrature. Et donc, on les présente à la nation et ils prêtent serment devant le président de la République qui va prendre acte de leur prestation de serment. En ce moment-là, ils entrent en fonction, c'est ça. Ils entrent en fonction ce jour-là, après cette cérémonie grandiose. Et c'est ce que nous attendons tous. Bon. Et puis, il y a une autre étape. Ils vont rédiger leur règlement intérieur, c'est une étape importante, et puis
le budget,
il faut désigner leur président, qui va appliquer les choses, et le président de la République va investir ce président par voie d'ordonnance. Donc, il y a des choses qui vont commencer. Donc, on est déjà très très avancé. Je pense que c'est imminent, mais je pense que ça va se faire assez rapidement, parce qu'on est déjà, on a réglé déjà un grand nombre de problèmes. Maintenant, j'aimerais revenir sur pourquoi cette cour est très importante pour notre pays, Jérôme Gembo. Cette cour, comme je dis, c'est le temple de la démocratie. Ce sont les gardiens de l'ordre constitutionnel. Donc, ils vont jouer un très grand rôle dans notre pays. Ils ont plusieurs compétences.
Pour ne pas vous couper, c'est de laisser en assiste à des discours, disons, pratiquement les gens qui s'improvisent, constitutionnalistes. Tout le monde peut, au fait, déclarer l'inconstitutionnalité de certaines dispositions des lois. Nous sommes dans une phase qui demande un peu des concentrations des uns des autres. Voilà, donc, voilà, tout citoyen se réveille un matin, il déclare l'inconstitutionnalité des dispositions. Alors là, ça prête vraiment confusion. C'est pourquoi il faut vraiment ce cadre institutionnel, ce cadre constitutionnel pour régler ce genre de spécialités.
La question a été réglée, Yannou Gabo. Cette cour est à la disposition de notre peuple. Et donc, n'importe quel citoyen qui estime que telle loi votée par le Parlement, tel édit provincial voté par la province, que tel arrêté d'un ministre ou d'un gouverneur, etc., n'est pas conforme à la Constitution, eh bien, il peut saisir la Cour constitutionnelle. Donc, c'est une révolution. Vraiment une révolution. Et c'est que M. Lumu, Maître Lumu, Mbaya, que je connais bien, que je salue, et donc a fait c'est dans ses droits garantis par la Constitution. Bon. Évidemment, je me réserve, je ne veux pas commenter sa requête, parce que la Cour suprême en est déjà saisie, et je ne veux pas faire de commentaires là-dessus, mais je conseille à mon ami Maître Lumu, qui est de mon département à l'université, de Kinshasa, à la faculté de droit, on peut organiser un débat scientifique à la faculté, et moi je suis prêt à ce qu'on organise ce débat avec lui devant des étudiants, devant d'autres professeurs, pour examiner sa requête sur le plan purement scientifique. Mais ici, je ne peux pas commenter le problème, etc. Mais maintenant, cette Cour a des compétences très très importantes. Je peux les énumérer assez rapidement pour des raisons pédagogiques. Comme je l'ai dit,
contrôler
les lois, ça c'est l'article 43, je ne vais pas citer les articles ici, va contrôler la conformité à la Constitution des quoi ? Des lois votées par le Parlement. Même des traités internationaux. Je suis dans la loi, etc. Des ordonnances du président, des édits provinciaux, des règlements intérieurs du Sénat, de l'Assemblée nationale, etc. Et même des études d'appel, des actes qui sont pris par la CENI, on peut les attaquer devant. Et c'est le cas ici, justement. Le calendrier, c'est une décision de la CENI, un acte de la CENI, et donc on peut l'attaquer en inconstitutionnalité devant la Cour suprême. Et même aussi, même des arrêtés, des décisions prises par les gouvernements, etc. Donc c'est une compétence très importante. Et puis, deuxième compétence, qui est très importante pour la Cour, c'est l'interprétation de la Constitution. Donc on peut avoir des débats, des discussions, est-ce que cette loi est conforme ou non, etc. On peut poser la question à la Cour pour dire oui, qu'elle est conforme ou qu'elle n'est pas conforme. Cette interprétation s'impose à tout le monde. Donc c'est une compétence très importante. Mais il y a aussi le problème qui peut surgir demain entre l'État central et les provinces qui se disputent sur une compétence. c'est encore une fois la Cour constitutionnelle.
C'est comme les cas récemment, il y a la question liée à la rétrocession et tant d'autres les problèmes liés à la décentralisation. Donc, oui, ça pose énormément de problèmes. Hein, les ETD, les taxes cédées aux provinces, voilà, ça pose des problèmes avec les rétrocessions.
Oui,
dans la langue, on ne savait pas qui les avait tranchées.
Tout à fait, exactement. On peut dire oui, une province peut dire écoutez, mais. Le pouvoir central a pris une décision qui relève de ma compétence à moi province, ou que la province a pris une décision dans une compétence qui relève du pouvoir central, qui va trancher. C'est la Cour constitutionnelle, le gardien de l'ordre. Donc cette Cour joue un rôle très très important. J'ajoute aussi la compétence en matière pénale. C'est cette Cour qui a la compétence de juger le président de la République et le Premier ministre. Donc, si le président de la République commet une infraction, des actes de haute trahison ou des délits d'initié, je ne peux pas définir toutes ces infractions, ou problème de corruption, si un président public est pris dans des cas de corruption par exemple, etc., ce sont des infractions pénales. Là, il est jugé par
la Cour constitutionnelle,
y compris le Premier ministre. Donc les deux là, peuvent être jugés par le président, par la Cour constitutionnelle, s'ils commettent des infractions, même des droits communs, par exemple. Donc ils peuvent être jugés par ça. Donc c'est une compétence qui est très très important. Mais il y a, comme nous en avons parlé tout à l'heure, le contentieux électoral. C'est ce qui intéresse
les auditeurs.
Donc la Cour constitutionnelle est juge du contentieux électoral. Mais de quelle élection? Élection présidentielle, élection législative nationale et le référendum. C'est tout. La Cour ne s'occupe pas du contentieux pour les députés provinciaux. Ça, ce sont les cours d'appel qui s'en occupent. Mais ça peut venir pas aux états d'appel. Mais ce sont des détails. Mais la Cour constitutionnelle juge du contentieux des élections du président de la République, élection présidentielle, élection législative nationale et le référendum. C'est tout. Bon, c'est là où on crée une avalanche, une avalanche de contentieux. Vous savez, le Congolais aime la chicane, la palabre. Et puis, la Cour constitutionnelle proclame les résultats définitifs pour ces élections-là. Donc, c'est une compétence qui est très, très importante dans le domaine politique. Et c'est pour cela qu'il faut que cette Cour soit opérationnelle le plus vite possible.
Parce que la Cour suprême a fait office de la Cour constitutionnelle par le passé, pourquoi ne pas laisser la Cour continuer et au moment opportun, dès que tout sera mis, tout sera possible de rendre opérationnelle la Cour suprême, désigner les membres, comme ça pourrait être plus rapide. On est de désigner le membre et que ces membres puissent tourner les pouces, comme vous l'avez dit tout à l'heure.
Oui, je termine une dernière compétence de la Cour constitutionnelle. Mmh. Eh bien, c'est la Cour constitutionnelle qui reçoit le serment du président de la République élu. Donc, le président de la République élu prête serment devant la Cour constitutionnelle. Donc, c'est une compétence importante qu'il faut relever. Donc, il faut que cette Cour soit opérationnelle. Je reviens encore une fois. C'est vrai qu'on a pris du retard. Bon, cette Cour est prévue, Gérard Longuembo. Bon, depuis le mai, mais on a déjà franchi plusieurs étapes. Cette Cour a le mérite d'exister, ses membres sont connus, mais il faut maintenant les présenter à la nation. Et qu'ils prêtent serment devant le président de la République, qu'ils commencent maintenant à travailler. Les bureaux sont déjà disponibles, ils sont là. Je suis passé d'ailleurs par là ce matin pour d'autres démarches, faisant chose. Et donc, tout est en place, il suffit seulement de convoquer cette grande rencontre nationale. Qui va réunir le président
pour craindre que le bureau de bâtiment nouvellement construit puisse être exploité par d'autres personnes, d'autres services de l'État. Donc voilà.
De la Cour constitutionnelle. Non, le premier ministre, l'actuel ministre de la Justice, Alexis Tambemba, le jour de l'inauguration de ce nouveau palais, j'étais présent à cette cérémonie. Donc le ministre de la Justice, Alexis Tambemba, a été très clair, il l'a dit devant le président de la République et devant toute l'assistance, que dans ce bâtiment, il y a des locaux qui sont réservés à la Cour constitutionnelle, et ce sera là où la Cour va siéger. On a visité les salles d'audience qui sont impeccables, bureaux, tout est en place.
Voilà, donc voilà. Maître Machak est à Lumbashi, Maître Bruno à Ouvira et Maître Adrien à Kananga. Maître Machak, bonjour.
Bonjour, M. Gier, bonjour à M. le professeur et bonjour à tous les auditeurs de la radio Capine.
Vous avez la parole.
Merci, M. Gier. Je crois, monsieur Gérard, le grand problème que moi je vois dans notre pays, c'est qu'il crée souvent des confusions et des conflits. C'est la non-vulgarisation de nos lois, monsieur Gérard. Et c'est ce qui pousse, qui favorise aussi la mauvaise interprétation. Parce que moi, aujourd'hui, je vais m'adresser directement au grand professeur qui vous êtes avec lui là-bas. C'est lui que nous connaissons, les grands constitutionnalistes de notre pays. Puisque vous savez, aujourd'hui, la Constitution, c'est ça la loi fondamentale de notre pays. Et c'est une loi qui doit être bien connue par tout le monde pour éviter de mauvaises interprétations. Pourquoi, monsieur le professeur, ne peut pas prendre l'initiative? Puisque aujourd'hui, les Congolais ne sont tous seulement à Kinshasa. Ici, chez nous, à Lubumbashi, un peu partout, il y a les Congolais. Et quand il y a des conflits, c'est un peu partout là-bas où les conflits naissent. Pourquoi, monsieur le professeur, ne peut pas prendre des initiatives et commencer à organiser des séminaires de formation avec les soi-disant positionnalistes qui naissent un peu partout pour commencer à les faire voir comment une loi doit être constitutionnelle, doit être interprétée pour son bien application. Puisque aujourd'hui, il y a beaucoup de conflits, c'est la mauvaise interprétation de nos lois.
Et surtout de la loi fondamentale.
Aujourd'hui, n'importe qui se réveille, il passe à la télévision, il passe à la radio, on fait le débat avec les journalistes. Non, nous avons un constitutionnaliste ici qui interprète la loi constitutionnelle de sa manière. Ça, c'est la charge de M. le professeur Kibangu, que je respecte beaucoup, de prendre les initiatives de commencer à organiser des séminaires de formation dans tout, partout dans la République démocratique du Congo, afin de commencer à faire voir aux gens, ou bien expliquer aux gens comment est-ce qu'une loi doit être interprétée et doit être appliquée, M. Gérard. Je crois que c'est ça la cause principale des conflits, la mauvaise interprétation, parce que les lois ne sont pas bien vulgarisées, M. Gérard.
Merci beaucoup, Maître Machaka. Maître Bruno, vous êtes à Ouvira. Bonjour.
Bonjour, M. Dejmarie.
Vous avez la parole, Maître Bruno.
Merci de la parole nous accorder. Moi, je voudrais donner une précision. Je vais marcher dans la lignée des auditeurs qui nous ont précédés.
Mmh.
En fait, tous les auditeurs ont raison parce que c'est une disposition de la Constitution et c'est la Constitution qui organise cette disposition. Vous allez permettre cette autonomie. Parce que cette cour est vraiment très, très, très importante. Vous allez vous rendre compte que cette cour va contrôler les lois votées par le Parlement. Ça, c'est un point. Cette cour va interpréter la Constitution. Ça, c'est un deuxième point. Cette cour va juger le président et le premier ministre. Ça, c'est le troisième point. Monsieur Richman, vous allez vous rendre compte que cette cour est très importante et elle doit être mise en application parce qu'elle est importante pour le peuple congolais.
Oui, mais Maître Bruno, vous êtes à Ouvira. On sait tout de même qu'aujourd'hui, il n'y a pas un vide juridique. Dès lors que la Cour suprême a fait office de la Cour constitutionnelle, mais la plus grande question, je ne sais pas si il vous arrive également de vous poser cette question, dans le format actuel, est-ce que la Cour suprême est-elle habilitée à, au même moment, régler des contentieux, en matière pénale, et également, au même moment, traiter des dossiers en rapport avec des cas d'inconstitutionnalité des dispositions. Est-ce que ce n'est pas trop, comme le pensent certains observateurs, Maître Bruno?
Oui, c'est trop bien sûr, mais moi je pense que l'interprétation de la Constitution est régie par la Cour constitutionnelle. Parce que personne, tout le monde, tous les professeurs, il suffit d'être assistant à l'université, il ne sait pas si c'est lui qui est déjà constitutionnaliste. Vous allez vous rendre compte qu'il y a la confusion,
Pour couper court à toute confusion, il faudrait qu'on installe cette cour et ces membres-là qui sont habilités à interpréter la constitutionnalité des dispositions ou non. Voilà, donc merci beaucoup Maître Bruno d'avoir appelé d'Ouvira. Maître Adrien, vous êtes à Kananga. Bonjour Maître Adrien.
Oui, bonjour JF, bonjour à tout le monde.
Vous avez la parole Maître Adrien.
Oui, j'ai merci beaucoup pour la parole. Je pense que lorsque nous suivons attentivement la situation, je me pose la question par rapport au contraire qui a saisi la Cour suprême de justice Je pense que la loi, il ne faut pas la lire comme si c'était une lettre comme ça, c'est la loi. Il y a ce qu'on appelle l'esprit de la lettre de la loi. J'ai aussi lu sa requête, et en suivant, j'aimerais me rallier par rapport au propos du confrère Omar. Parce que dans tout ça, je ne trouve pas l'intention de la part de nos amis de la commission électorale, donc de la CENI, violer intentionnellement.
Voilà, c'est ça le débat maintenant, Maître Adrien. Vous, vous êtes des juristes. Déjà, à votre niveau, lui estime que sa requête est fondée et tient la route. Vous, par contre, avec une lecture juridique aussi, vous vous dites, mais voilà, après avoir fait des analyses, que voilà, il n'y a pas d'inconstitutionnalité. Et c'est ce débat-là qui pouvait être réglé par la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire des gens qui peuvent interpréter en dernier ressort. Voilà au moins là où le débat se situe. Est-ce que vous partagez l'avis qu'il faut une nécessité, il y a une nécessité de pouvoir installer cette cour constitutionnelle?
Oui, Gilles, merci beaucoup. Je pense que la question.
Parce qu'on ne va pas vous laisser le temps de pérorer et faire des débats entre juristes par rapport à cette question, mais il faut quand même qu'il y ait des spécialistes pour interpréter en dernier ressort.
Exactement, je suis d'accord avec vous. Maintenant, par rapport à votre question, je pense que la question est intéressante dans la mesure où, c'est vrai, la Cour constitutionnelle est vraiment d'une capitale importance, mais moi, je me dis, ce n'est pas le moment, hein, franchement, ce n'est pas le moment pour qu'on puisse souhaiter l'installation de cette Cour constitutionnelle. Pourquoi? Parce que lorsque je lis la plupart de juges nommés à gauche, à droite, trois par les chefs d'État, trois par les conseils supérieurs de la magistrature, trois par l'Assemblée et le Sénat, et je me dis, la plupart d'entre eux sont soit professeurs, soit politiciens, mais qui est conforme à la Constitution, mais attention, et la plupart d'entre eux ne sont pas des juges, et ce qui risque de compliquer encore davantage donc la situation, parce qu'ils seront obligés concentrer sur des questions vraiment délicates, hein, des élections de contentieux. C'est comme ça, moi je pense, il faut faire avec la compétence d'attribution reconnue à la Cour suprême de justice, peut-être après les élections, voir maintenant comment est-ce qu'il faut mettre en place la Cour constitutionnelle, parce qu'on a mis beaucoup de temps, ça fait 9 ans que la Constitution est d'application, on n'avait jamais songé à l'installation de la Cour constitutionnelle.
Voilà, peut-être bon, c'est vrai.
On peut maintenant songer à ça.
Oui, peut-être par rapport aux 9 membres nommés dans cette Cour, c'est vrai, on n'a pas une idée d'ensemble, mais même s'il n'y a pas les juges dans la quasi-composition de ces membres, mais nous pouvons quand même citer, il y a la présence des juges Kilomba, pour ne pas faire sa publicité, mais au moins il est le plus jeune, hein, le plus jeune des membres qui composent cette constitution. Il y a le juge Noël Kilomba qui est là-dedans. Bon, je ne sais pas, il y a le professeur Vungawe Tepemako, dont vous avez évoqué, il y a d'autres qui constituent, en tout cas, ces membres et dont les qualités sont acceptées parmi les certains juristes ou les grands juristes de ce pays. Voilà. Adrien, donc je crois que le problème, c'est vrai, notre invité pourrait nous éclairer là-dessus, le fait que la composition ne soit pas quasi représentée par des juges, donc est-ce que ça pourrait être un problème aussi? Bon, vous avez souhaité qu'on puisse récaler un tout petit peu, attendre avant la mise en œuvre effective de cette cour constitutionnelle. Maître Kaiser, vous êtes à Pugna, au Maniema, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, JR. Bonjour à tous les auditeurs de la Radio de la Paix.
Voilà, vous avez la parole.
Oui, la question introduite par les confrères du barreau de la Cour d'appel de Matete est tout à fait normale, dans le sens que lorsqu'il y a une loi qui est promulguée, et donc quelques dispositions sont contraires à la Constitution, il est loisible alors pour lui d'introduire une requête auprès de la Cour suprême de justice, toutes sections réunies qui font pour le moment office à la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire, il est logique, il est tout à fait normal qu'il introduise sa requête auprès de la Cour suprême de justice. Néanmoins, il y a des problèmes qui vont se poser pour le moment, dans le sens que il n'a pas cette qualité-là, la Constitution ne lui permet pas à lui seul d'introduire une requête dans ce sens. Il fait simplement un tiers, c'est-à-dire un dixième des députés qui ont la compétence d'introduire une requête en ce sens.
Bon, je crois que nous devons tous encore lire la Constitution, parce que c'est, c'est que nous, nous avons en face de nous, donc il convient, en fait, permettez-moi quand même de vous rappeler qu'au terme de l'article 162, alinéa 2, je ne sais pas si j'ai peut-être trompé de la Constitution, toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire. Voilà. Maître Kaiser, c'est pour votre information. Peut-être que ça pourrait vous permettre d'aller encore interpréter. Bon, nous ne sommes pas des juristes. On laisse, en tout cas sous réserve de ceux qui ont l'expertise à la question. Voilà. Alain, vous êtes à Kisangani. Bonjour.
Bonjour, maître journaliste.
Vous avez la parole, Alain.
Et merci beaucoup. Moi, j'interviens parce que j'ai suivi ce débat avec beaucoup d'intérêt. Je voulais juste intervenir par rapport à l'intervention de notre compatriote qui serait sous la Cour de justice par rapport à la violation qu'elle a tenue par rapport à la situation de calendrier électorale. Je ne trompe pas. Oui, il est compétent de le faire parce qu'il est dans toutes les qualités. Selon les dispositions de la Constitution. Mais comme l'invité a dit, c'est une question de débat scientifique parce que, à mon avis, la CENI a l'obligation de respecter la Constitution dans toutes ses dispositions. Et quelque part, il y a un principe d'exception au principe de la légalité. Je reconnais la CENI.
Un principe d'exception.
Le pouvoir discrétionnel. Le pouvoir reconnu à la CENI donc permet à la CENI de faire les choix. Les choix par rapport à l'action, les choix par rapport aux moyens de l'action et les choix par rapport au temps propice de son action. La CENI, en élaborant ses actions, a trouvé que n'est pas possible de déposer telle action à tel moment, seulement il est le
donc ce n'est pas inconstitutionnel. Ce n'est pas inconstitutionnel.
Ce pouvoir a été reconnu à la CENI. Je pense que le débat scientifique pourrait déjà donner solution à cela.
Voilà, merci beaucoup Alain. Nous allons conclure avec notre invité, professeur Chibangoukalala. C'est vrai, aujourd'hui, il y a Maître Adrien qui pose quand même un problème de fond. La composition de cette cour constitutionnelle, les membres qui composent cette cour, il n'y a pas de juges. Voilà, il faut vraiment repousser l'opérationnalité de cette cour à plus tard, parce que déjà, ça porte des armes de conflit déjà. Le fait de ne pas avoir de juges, il n'y a que des professeurs, il y aura trop de science là-bas, il n'y aura pas la pragmatique, voilà. Et puis la Cour constitutionnelle, c'est vrai, la Cour suprême de justice, aujourd'hui il y a une inquiétude de la part des auditeurs, qui a compétence aujourd'hui de traiter la matière, des dossiers en matière pénale, mais comment elle pourrait peut-être s'en sortir avec, au même moment, traiter aussi la matière, des matières électorales.
Oui, cher. Bon, je commence d'abord par notre ami qui est un confrère à moi, Maître Adrien, qui pose le problème de la composition. Mais il faut savoir que, s'agissant de la composition de la Cour constitutionnelle, il est dit que les deux tiers, déjà, donc ça signifie 6 sur 9, deux tiers, doivent être des juristes qui proviennent de la magistrature, du barreau, et de l'enseignement universitaire. Donc c'est bien cadré, c'est deux tiers. Le tiers qui est restant, les trois autres, peuvent être des politologues, peuvent être même des hommes politiques, hein, de premier plan, des sages qui peuvent être là. Donc, mais au moins, il faut que les deux tiers soient des juristes, des enseignants et des praticiens du droit. C'est pourquoi on parle de la magistrature, du barreau et de l'enseignement universitaire. Donc vous avez là des praticiens du droit et des enseignants du droit. Donc il y a un équilibre qui est parfait. On peut faire appel aussi à des politiciens de premier plan. Donc l'équilibre est bien construit. S'agissant de la composition actuelle, cela a été également respecté.
sous réserve, je veux dire, eh bien, sur 9 membres, actuellement, 8 sont des juristes. 8 sur 9 sont des juristes. Il y a un professeur d'université qui est un politologue, hein, mais qui n'est pas juriste, et c'est bien, voilà, un professeur d'université, politologue. Et donc, les autres qui sont restés, à ma connaissance, les 8, ce sont des juristes, qui sont des praticiens du droit, qui sont des enseignants du droit. Bon. Et d'ailleurs, pour le Conseil supérieur de la magistrature, il dit que les 3 membres qui sont proposés par le Conseil de la magistrature doivent être des magistrats en activité. Magistrats en activité. Donc, la question du dit, bon, écoutez, il n'y a pas de juge, etc. Bon, mais il y en a déjà. Il y en a au moins 3 qui proviennent de la magistrature. Et puis, le président de la République peut désigner aussi d'autres juristes. D'ailleurs, il dit que sur les 2 que le président doit désigner, il faut qu'il y ait des juristes parmi les 2 pour respecter cet équilibre. Donc, s'agissant de la composition, le problème ne se pose pas. Tout a été bien respecté, équilibré. Il n'y a pas de critique. Ça, c'est pour mettre à rire. S'agissant de Maître Kaiser, qui a semblé dénier le droit de Maître Lombo d'introduire la requête, eh bien non, et vous avez apporté la précision de Jérôme Guimbo, non, la Constitution le prévoit déjà, ça a été une révolution que vous sollicitez, et c'est confirmé par l'article 48 de la loi sur la Cour constitutionnelle. Donc toute personne, y compris Maître Kaiser lui-même. Donc j'ai dit à Maître Kaiser que lui, il a ce droit-là, il peut le faire, on n'a pas à chercher le tiers ou le dixième, ça n'a rien à voir. Lui, il peut saisir ce que Maître Lombo a dit. Et s'agissant de Maître Lombo, nous sommes à la fin de l'émission, je vous ai dit que c'était un ami, et j'encourage ce qu'il a fait, et c'est très bien, mais comme il n'est pas ici, je ne suis pas dans un débat avec lui, et donc je ne fais pas analyser sa requête.
Voilà.
Ça, on le fera à la faculté. Je termine par Maître Machaka, merci pour ce que vous avez dit, mais c'est un travail collectif que nous devons faire ensemble pour vulgariser nos lois, mais la Cour constitutionnelle est là, c'est le juge suprême en matière constitutionnelle, donc on va mettre fin aux aventuriers qui se proclament constitutionnalistes et qui créent la Constitution.
Merci beaucoup, professeur Tshibangu Kalala, d'avoir accepté notre invitation. Merci à Paul Badiagama qui était à la technique. Cette émission a été réalisée par Pierrot et Lamegi et Julie Tshibangu. Une émission coordonnée et présentée par J.R. Lungembo. Voilà, l'actualité continue sur la fréquence de la paix et nous vous souhaitons une bonne suite des programmes sur Radio Capitale.